consonance.
De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre.
Consonance.
Petite. Des textes de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Léane Garnier, Fanny Lerest, Sophie Porzier et Guy Roulet.
J'aurais aimé être Viviane Maier. Cette femme se disait photographe amatrice. Main levée, presque à s'excuser, elle jurait à ceux qui la questionnaient que ce n'était qu'un hobby, un passe-temps, comme d'autres vont à la pêche, qu'il n'y avait pas à chercher plus loin. Mais sur son visage, sur ses clichés d'elle en pied ou en format américain, en gros plan capturé tant de fois sur des autoportraits, on peut lire clairement les chemins qu'elle empruntait. Elle passa sa vie à tirer le portrait de ses contemporains, inconnus marchant dans les rues de New York ou de Chicago, gamins jouant à chat, femmes chuchotant dans un salon, hommes lisant derrière leurs lunettes, discutant assis sur un banc dans un parc du Loop. Mais aussi des mendiants, les travailleurs des petits matins froids, les syndicalistes du grand soir, bras levés, leurs reflets sur les façades de verre, touristes, badauds, la bonne bourgeoisie qu'elle servait comme gouvernante, histoire de gagner sa vie. Visage ému, surpris, pris par surprise, regard éteint ou pétillant, corps tordu ou élancé, joie, peine, indifférence. Une époque où on ne demandait pas l'autorisation pour prendre une photo, où l'anonymat était la règle. Durant 50 années à photographier, elle épuisa un Rolleiflex, un Kodak et un Leica. Au fur et à mesure de ses prises de vue, elle remisait tout cela dans des cartons. 200 paquets au total, entassés dans des garde-meubles, des garages et qui la suivaient comme un chien fidèle. Le plus fou, c'est qu'à sa mort, on découvrit que ces cartons débordaient de pellicules qu'elle n'avait jamais développées. Des milliers de clichés pris comme si c'était un devoir, sa mission, et que cela ne concernait personne d'autre qu'elle, le monde et son rapport au monde. Le résultat importait peu, seul l'acte. Et puis, disparaître. Elle n'avait qu'une boîte postale pour adresse, et poursuivit une vie anonyme et solitaire. Peu d'amis, quelques amants. Elle est morte seule dans un hôpital en 2009, après un traumatisme dû à une chute sur une plaque de verglas. Toute sa vie, elle ne chercha rien d'autre que cette étincelle, aperçue un jour alors qu'elle était petite fille, et qui l'obséda pendant des décennies et qu'elle poursuivit encore et encore sur des milliers de clichés que jamais elle ne montra. Il ne fallait pas que des regards, même le sien, ne fanent cette étincelle. L'innocence après laquelle elle courait.
J'aurais aimé être cette danseuse de flamenco qui venait d'achever sa danse. Dans cette salle, un gymnase, où on avait dressé une estrade en bois et placé quelques chaises pour un public de village clairsemé. Une fois la représentation achevée, la danseuse et le guitariste vinrent saluer. Les spectateurs applaudirent et s'esquivèrent rapidement vers la buvette. Seule une grand-mère, accompagnée de sa petite fille d'une dizaine d'années, attendait encore au premier rang. C'est alors que la danseuse, quittant la coulisse, revint sur la scène, une bouteille d'eau à la main. La grand-mère, qui la connaissait comme étant la fille du voisin, s'en vint la saluer. À ses côtés, la petite fille était comme pétrifiée. Elles parlèrent toutes les deux, de danse flamenca bien sûr, mais aussi des récoltes, de la maladie du grand-père, des études de droit qu'elle avait abandonnées, du temps qu'il faisait. La petite fille n'arrêtait pas de tirer sur la robe de sa grand-mère. Oui, 2 minutes. On ira boire un jus d'orange. Mais elle continuait de causer, la grand-mère. Et la danseuse aussi. Bavarde tout de même, malgré la fatigue qu'on lisait sur son visage. Elles parlèrent de Paco de Lucía, de Camarón, d'Antonia Jiménez et Pepe Romero, de Sabicas, du soleil d'Andalousie, des oranges de Grenade, et d'El Baile, El Cante y El Toque. Mais la petite fille manifestait toujours autant d'impatience, qui tirait encore et encore sur la robe de sa grand-mère, qui lui passait la main dans les cheveux en guise de réponse, et poursuivait sur la danse, l'interprétation, sa robe, elle avait donné un coup de main à la couture, le chauffage en panne, que vraiment, c'était pas de chance. Au bout de 10 minutes, voyant que la petite ne tenait plus en place, la grand-mère céda dans un rire et prit la main de la gamine pour l'entraîner vers la buvette. Mais la petite résista. Elle ne voulait pas de jus d'orange. Tu boiras un coca si tu veux. Et puis il y a des gâteaux aussi. Mais non. La petite essayait de faire comprendre autre chose à sa grand-mère. Mais quoi donc, Fanny ? Ça ! Cria la petite en désignant la scène. La grand-mère se retourna, la danseuse aussi qui s'en allait rejoindre la coulisse. C'est ça ! Répéta la gamine. La danseuse revint alors sur le devant et tendit la main à la petite afin qu'elle grimpât sur les planches. Voilà ! Voilà, voilà ! Voilà ! Répéta la fillette en sautillant sur la scène, un large sourire lui barrant le visage. La danseuse, elle, grimaçait à cause de l'électricité statique que la gamine avait déchargée dans sa main.
J'aurais aimé être cette femme. 2 soirs par semaine, elle se rend à la chorale, un chœur de femmes d'environ 40 voix qui s'est fait une bonne réputation dans le coin. L'ensemble Vox Femina est régulièrement invité à se produire et parcourt les routes du département pour des concerts, dans les églises le plus souvent. Ce mardi-là, c'est répétition générale. Le chef de chœur a inscrit son groupe à un concours. Alors il faut s'appliquer. Poulenc, Fauré, Saint-Saëns, musique sacrée au programme. On reprend depuis le début. Le chef de chœur demande la note à l'organiste et le groupe démarre. Mais la femme chante affreusement faux. Tout le monde le sait, personne n'a jamais eu le courage de le lui dire. D'autant que c'est une grande fierté pour elle d'avoir intégré ce groupe qui n'espère qu'une chose pourtant, une panne de voiture, une panne de réveil, voire un décès dans sa famille pour qu'elle ne participe pas au concours. Alors elles font semblant, les autres femmes, et le chef de chœur aussi, qui ne peut guère la renvoyer, ce ne sont pas des professionnels. Souvent, il répète « autant !» Et toujours la femme hausse les épaules, répondant « pour moi ?» en riant. Elle sourit toujours, ne se rend compte de rien, ni de ses voisines qui s'agacent, ni de celles qui la critiquent dans son dos. Rien n'y fait, rien n'y a jamais fait, et il faudra faire avec. Les lignes qu'elle saute, les couacs, une tonalité un peu trop haute, parfois trop basse, rarement dans le mouvement, à contre-temps le plus souvent. Elle crie parfois, comme pour se rassurer, se prouver qu'elle est bien là. Et le jour du concert arrive. Ils sont 10 chœurs à concourir. Le groupe passe en 6e position devant un jury de professionnels. Il a un peu de temps devant lui. Le chef de chœur rappelle les consignes. Il détend tout le monde par des pointes d'humour. Alors on se chauffe la voix, on fait des gammes dans le parc. Tout le monde a l'air soulagé, la femme n'est pas là. Personne n'a demandé de ses nouvelles. Quand soudain, la voilà qui arrive, en sueur, ne s'excusant même pas pour son retard, sa partition roulée dans la main. Vient alors le moment de passer. Vox Femina terminera 3e dans cette compétition. Une bonne performance, se félicite le chef de chœur, qui passe parmi ses chanteuses pour les féliciter. La concurrence était relevée. La femme est seule, assise sur un banc. Les autres ont pris un verre de pétillant. Elle boit un thé. Le chef de chœur s'approche et les mots sortent de sa bouche. Il la remercie pour son travail, mais ne peut s'empêcher de dire que, pour une fois, elle n'a fait aucun couac, aucune fausse note. Qu'il fallait peut-être cela, un concours, pour qu'elle se mette au niveau des autres. La femme sourit et lui chuchote qu'elle a une extinction de voix. Puis elle ajoute qu'elle sait bien tout ça, mais qu'elle continuera quand même à venir chanter. Enfin, si on veut bien d'elle.
J'aurais aimé être cet homme à cet enterrement. Il suit comme il peut le convoi mortuaire qui mène le défunt à sa dernière demeure. Comme il peut, car il a passé une bonne partie de sa journée au pub. Celui qu'on va enterrer était ingénieur du son, et l'homme un musicien, bassiste dans un groupe de rock, mais c'était avant. C'est la mémoire de celui qui donna tellement de son temps à son groupe qu'il a tenu à honorer aux Coaches and Horses, en buvant bière sur bière. Alors il titube franchement au milieu de la foulée pleurée. Il marmonne aussi, lance parfois des cris qui deviennent des rires gras, hoquette son houblon au visage des amis, de la famille, qui, choqués mais ne voulant pas faire de scandale, se demande qui peut bien être ce grossier personnage. Placé devant, le pasteur ne se rend compte de rien, qui continue de chanter. Et bientôt le convoi entre dans le cimetière. Voici le cercueil posé sur des tréteaux. Juste à côté se trouve le trou dans lequel les employés des pompes funèbres vont bientôt le faire glisser. Pour l'éternité. Le pasteur se tourne alors vers la foule et prononce une courte oraison que l'homme approuve à grands coups de « yeah » et de « not bad ». De sa poche, il sort une flasque qu'il vide à moitié seulement, précisant d'une bourrade à son voisin que l'autre moitié sera pour le défunt. Puis des hommes et une femme, la veuve, se succèdent en lisant un petit texte que l'homme commande par des borborygmes. Le pasteur lui fait les gros yeux. L'homme alors éclate de rire, puis fait « chuch » pour lui-même, en plaçant son doigt sur sa bouche. Il se redresse un peu, tente de retrouver une contenance, mais déjà son estomac le tiraille. Une fois les discours achevés, les employés descendent le cercueil et la petite foule se met en file pour bénir la tombe, jeter un peu de terre, une fleur. Bientôt, c'est au tour de l'homme. Le voici qui se tient debout devant le trou, dodelinant de la tête. Il lève alors le doigt, comme si des mots devaient sortir de sa bouche, et soudainement se ravise. Il repense à sa flasque, tente maladroitement de la sortir de la poche de sa parka, et n'y tenant plus, vomit toute sa bière dans le trou. Scandalisé, le pasteur demande aux employés des pompes funèbres d'écarter l'homme qui tente de sa voix pâteuse de s'excuser. Deux solides gaillards l'empoignent alors, mais ne sachant que faire de lui, ils l'asseyent à même le sol, le dos appuyé sur une pierre tombale un peu plus loin. Lorsque l'homme se réveille de son sommeil de soulard, le soleil a baissé dans le ciel. La cérémonie est achevée depuis longtemps. La pierre tombale a été placée, déjà décorée de quelques plantes et d'une poignée de plaques mortuaires. L'homme se lève alors, péniblement. Il rassemble ses idées, puis s'approche de la tombe. Il lit « To my grandfather, in loving memory, the most loving dead, my life without you ». L'homme monte alors sur la pierre et de quelques coups de pied rageurs balance tout cela sur les côtés. Tout ce qu'il y avait sur la pierre, toutes ces preuves que le défunt manque déjà au vivant. Ça prend quoi? Une poignée de secondes quand il se saisit de la dernière plante et la jette au loin. on entend le pot se briser. Il sort alors de la poche de sa parka une plaque qu'il pose sur la pierre vide et d'un geste lent, l'arrose avec le reste de whisky contenu dans sa flasque. Puis il quitte le cimetière en sanglotant. Dans le soleil couchant, l'alcool donne des effets irisés à la plaque sur laquelle on peut lire « Mort basse !»
Portrait du père en gardien. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Sophie Porzier.
Mon père. Un portrait de mon père. C'est ça que vous voulez? Je vais vous dépayser un peu. Je suis américaine. Et même si je vis en France depuis longtemps, j'ai grandi là-bas, à Boston. Vous saviez que ce sont les Français qui ont fondé cette ville? C'est une manière de boucler la boucle. Alors, mon père, oui. Il y a peu de choses à dire sur sa vie, mais elle fut bien ordinaire. Il était gardien de musée, au musée Gartner de Boston. Notre petit Louvre à nous. Mais peut-être que... Je vais commencer par la fin. Vous racontez la fin de sa vie. Cette mort incroyable et tellement belle. Je vivais déjà en France à cette époque. Ce sont ses amis qui m'ont appris tout cela. John, mon père, était retraité, mais il venait au musée tous les jours. D'un pas lent, il gravissait, marche après marche, le long escalier qui montait au premier étage. Son ami, Henri, m'a décrit sa démarche. Certains trouvaient que ce pas était bien cérémonieux, presque maniéré tant il était posé. Mais Henri, il le connaissait bien, mon père, et il savait qu'il n'en était rien. Il avançait le dos courbé. Ce pas était devenu le sien depuis ce jour de mars 1990, où des cambrioleurs s'étaient introduits dans le musée pour s'emparer de 13 tableaux de maître. Dans les rues de Boston, cette nuit-là, on fêtait la Saint-Patrick. Il n'avait fallu aux voleurs que quelques minutes pour accomplir leurs méfaits et disparaître. Cette démarche triste que mon père avait adoptée dès qu'il passait la porte du musée était comme une réponse à la joie irlandaise de cette nuit-là, la nuit fatale. Sa lenteur apparaissait comme en creux à la rapidité des voleurs. Jamais il n'a manqué à sa promesse de venir au musée attendre le retour des tableaux. Sauf une fois, quand il a dû se rendre à l'enterrement de mon grand-père. Malgré ses demandes répétées pour déplacer les obsèques au mardi, jour de fermeture du musée, c'est un lundi qu'il avait dû se rendre en Floride. Au retour, son avion a pris du retard et, malgré le double pourboire offert au chauffeur de taxi, il est arrivé un quart d'heure après la fermeture du musée. Le lendemain, il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait pleuré toute la nuit. Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Mon père s'est rendu malade pour un vol de tableau. À force de le voir chaque jour, la direction avait fini par lui accorder une carte de membre bienfaiteur. Il ne faisait plus la queue au guichet et c'est en saluant d'un petit coup de chapeau qu'il pénétrait dans le musée. John portait un haut de forme et un costume sombre taillé à l'ancienne, veston, queue de pie et pantalon pincé. des guêtres venaient compléter cet ensemble anachronique. Cette tenue, il ne l'arborait que pour ses heures de visite. Tout le monde le remarquait. Certains disaient que c'était un excentrique, un original, un anglais peut-être. D'autres pensaient qu'il n'était qu'un vieux monsieur venant meubler sa solitude dans un lieu fréquenté. Bon, cela n'avait pas complètement tort. Un jour, quelqu'un dit de lui qu'il était fou. En entendant cela, Henri est intervenu auprès des touristes. Les fous sont ceux qui ont soustrait ces tableaux aux yeux du monde. Pour les employés, qui parfois guettaient son arrivée, mon père était devenu aussi célèbre que l'étoile disparue. Un journal a même voulu faire un article sur lui. Il a refusé. Des années s'étaient écoulées depuis que les voleurs s'étaient introduits au milieu de la nuit, après avoir assommé les gardiens, emportant les œuvres qu'on n'a jamais retrouvées. Le personnel avait changé, et même si les employés connaissaient la date de cette tragédie, plus personne ne se souvenait de mon père. Modeste gardien, retrouvé ligoté dans la réserve, 3 jours avant qu'il ne prenne sa retraite. Mais tout le monde connaissait son histoire. Un jour, Henri a fini lui aussi par atteindre l'âge de la retraite. Même s'il aimait beaucoup mon père, il s'est retiré dans la maison de sa mère, en Louisiane, et ils ne se sont jamais revus. Au fil des années, on en a vu passer des conservateurs. Des collègues plus jeunes sont partis pour d'autres fonctions. Mais mon père, lui, est resté. Il se voulait la mémoire vivante de cette nuit qui avait vu s'enfuir toute la beauté du monde. Un Vermeer, le seul dont on était sûr qu'il fût du maître. Plusieurs dessins de Degas, un paysage à l'obélisque de Flinck, la seule marine de Rembrandt qui soit parvenue jusqu'à nous, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, un vase de la dynastie Shang, un bronze ayant appartenu à Napoléon. Sa tenue élégante se voulait identique au personnage du tableau de Manet, chez Tortoni, qui a disparu cette même nuit. Il s'était même laissé pousser la moustache et avait perdu quelques kilos pour ressembler au modèle. Cette mise décalée était une réponse au voleur qui avait opéré, déguisé en policier. Durant ses allées et venues dans le musée, mon père ne parlait pas, ou très peu. Son silence tranchait avec les cris entendus cette nuit-là. Pourtant, c'était un bavard, mon père. Et il suivait toujours le même parcours. Après avoir visité les salles du premier étage où inlassablement ses yeux se posaient sur des choses 1000 fois vues, il poursuivait sa visite par le second niveau. Il débutait toujours par la salle hollandaise, regardant d'abord le mur nord, dont les longues fenêtres ouvrent sur le magnifique jardin vénitien de cette maison. C'est Isabella Stewart Gartner qui a fondé ce musée au début du XXe siècle. Si un jour vous y allez, je vous recommande le jardin, il est à voir. Puis lentement, mon père se tournait. Et son cœur, qu'il savait déjà fatigué, devait encore ralentir son rythme, les pulsations devenir irrégulières, presque incertaines quand ses yeux se posaient sur le mur sud. J'imagine, bien sûr. Le cadre du tableau de Rembrandt est toujours à sa place. Dans la partie occupée par la toile, un rectangle de tapisserie plus clair s'offre à la vue. Un vide comme en creux dans le cœur de mon père. Les voleurs ont découpé le tableau au cutter. Une toile roulée est plus facile à transporter. « Il faut vous ménager, vous ne suivez pas mes conseils !» lui a dit son médecin. Sur la fin, mon père éprouvait de plus en plus de difficultés à gravir les escaliers pour sa visite quotidienne. Il sentait son cœur épuisé par cette attente insupportable. Plus de 20 ans à espérer chaque jour que les tableaux reviennent. C'est lui qui avait suggéré de laisser les cadres vides. Depuis trop d'années déjà, son cœur lui faisait sentir que cette attente risquait d'être sans fin. L'enquête piétinait, même la récompense $1 million n'avait pas trouvé preneur. Les voleurs étaient sans doute déjà morts sans que cela ne fasse une ligne dans les journaux. Disparus, volatilisés, supprimés, comme les tableaux. Devant son évidente fatigue et parce qu'il était devenu comme un incontournable du musée, la direction l'autorisa à prendre l'ascenseur réservé aux handicapés. Mais cette blessure sourdait de plus en plus dans son cœur. Un jeudi matin, alors que le musée ouvrait à peine, il dut s'asseoir dans le hall avant d'écourter sa visite. La nuit suivante, il sut qu'il ne fallait plus tarder. Alors, il revint d'un pas rapide montant par l'ascenseur. Henri vivait déjà en Louisiane et c'est un autre gardien, surpris par sa démarche, qui lui a demandé si ça allait. Mais mon père n'a pas répondu. La fin, c'est moi qui vais vous la raconter. Je vais l'imaginer car il était seul quand il est mort et personne ne sait vraiment. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes lentement. John a ressenti comme un coup de poignard dans son cœur et c'est d'un pas hésitant qu'il est entré dans la salle encore vide de visiteurs. Un second coup l'a fait se plier en deux et son chapeau a glissé sur le sol. C'est tête nue, haletant, qu'il a tiré un fauteuil et l'a plaqué contre le mur qui avait contenu ce superbe portrait d'élégant peint par Édouard Manet. Cet homme au regard plein, assis à une table du café Tortoni, et qui fixe le spectateur d'un air surpris alors que le peintre le saisit sur le vif écrivant une lettre. Une lettre d'amour. Qui sait ? Le cerveau de John s'est brouillé alors qu'il montait sur le fauteuil pour décrocher le cadre. Lever les bras lui a arraché un cri de douleur que personne n'a entendu. Puis il a débarrassé un guéridon de ses dépliants et il l'a tiré devant le fauteuil. Épuisé, il a repris le peu de souffle que son cœur lui laissait encore, s'est saisi du cadre et il l'a placé devant le guéridon. Enfin encadré, il a sorti une plume et un encrier de la poche de son veston. Un visiteur l'a trouvé là, quelques minutes plus tard. La main désespérément tendue vers son haut de forme qui gisait renversé, quelques mètres plus loin.